Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voilà, donc nous sommes dans la continuité de notre série, une série que je voulais appeler globalement « Des lois pour vivre », les 10 commandements. Donc, dans les introductions, on s'est posé la question, quelle est la place pour les 10 commandements dans notre vie, mais aussi dans notre société, dans notre pays et dans le monde. Et on en a conclu 3 choses. La loi de Dieu, elle est toujours en vigueur car elle a été donnée par Dieu lui-même. Deuxièmement, c'était la loi est inapplicable car aucun homme ou femme n'a jamais pu la respecter. Et troisièmement, la loi est utile pour nous faire prendre conscience de notre état et de nous conduire à Christ, le seul qui l'ait jamais accompli. Et dans le premier message, on est entré dans le vif du sujet avec le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et on avait vu 3 points. Que Dieu est un Dieu unique, Dieu est un Dieu jaloux et Dieu est un Dieu qui mérite d'être servi. Alors on va continuer maintenant. Et donc pour ceux qui ont encore quelques notions d'enseignement de base et qui connaissent le Notre Père, ils se rappelleront certainement des premières paroles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et on voit finalement que cette prière modèle que Jésus a donnée à ses disciples, elle suit l'ordre des 10 commandements et on le verra par la suite. Il n'a pas juste inventé, entre guillemets, bien qu'il aurait pu, puisqu'il est lui-même Dieu et fils de Dieu. Mais il a suivi l'ordre des 10 commandements. D'abord Dieu, notre Père qui est aux cieux. Et on a vu d'abord, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'était le premier commandement. Ensuite, deuxième commandement, que ton nom soit sanctifié dans la prière du Notre Père. Eh bien, c'est notre commandement que nous allons étudier aujourd'hui. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et ça se trouve dans Exode, et donc on a Exode 20, au verset 7, qui est affiché. Et la version est peut-être un tout petit peu différente, mais ici, dans ma version, je lis « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». Et ici, nous avons « Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, pour tromper ». Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui invoquera son nom pour tromper. Et dans le petit catéchisme de Martin Luther, nous avons une explication sur le sens des paroles. Il dit « Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas profaner son nom par des jurements, des blasphèmes, des sortilèges, des mensonges, de l'hypocrisie, mais de le prononcer avec respect, de l'invoquer dans tous nos besoins, l'adorer, le bénir et lui rendre grâce. » Donc voilà un beau développement. Avec tout ça, on voudrait voir ensemble 3 points à nouveau sur ce commandement. Premièrement, que le nom, c'est la personne. Pourquoi c'est tellement important de prendre garde au nom de Dieu? Pourquoi il a interdit de prendre son nom à tort ou en vain? Eh bien, on va voir l'explication par rapport au nom de la personne. Le nom de la personne a beaucoup d'importance parce qu'il nous donne une révélation sur la personne elle-même. Et même si au départ, un prénom est donné, je dirais, au hasard pour honorer le grand-père ou parce qu'il y a une tante ou une grand-mère qui s'est appelée comme ça, des fois, mais ça a quand même de la valeur parce que ça veut dire qu'on veut imprimer dans la vie de l'enfant quelque chose tel qu'on l'a reçu. Autrefois, et du temps biblique, c'était surtout une signification par rapport à ce que le nom voulait dire. Donc on voulait bénir l'enfant par un titre. Il y avait aussi une filiation qui rappelait le nom du père, par exemple. Donc autrefois, c'était très important dans le choix du prénom par rapport à ce que ça voulait dire, et des fois c'est simplement par rapport aux circonstances. Mais dans la parole de Dieu, on peut observer qu'il y a un certain nombre de choses très importantes par rapport au nom de Dieu lui-même. Par exemple, dans Genèse, chapitre 22, verset 14, il nous y dit que Abraham a donné à un lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ainsi, il donne une révélation d'un nom de Dieu, celui qui pourvoit. On a d'autres noms comme ça, ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, donc on va les parcourir simplement. Lorsque Moïse, dans Exode, a vu le buisson ardent, à un moment donné, au verset 13 et 14, Exode 3, verset 13 et 14, Moïse dit, si je vais vers le peuple d'Israël, et ils vont me demander quel est son nom, quel est son nom? Et qu'est-ce que je dois leur répondre à ce moment-là? Verset 14, c'est très important parce que nous sommes dans un univers de multitudes de dieux. Il y avait des noms de dieux de partout et on est dans un contexte où le peuple d'Israël était en Égypte. D'accord? Alors, d'être en Égypte avec des dieux de toutes sortes et de se retrouver en disant « Dieu m'a dit que vous allez être délivrés ». Et on se rend compte que ces gens n'avaient plus de notion vraiment de qui était Dieu. Ils ont perdu le contact avec le Dieu vivant. Et donc, Dieu a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». C'est déjà très important. C'est une façon dont Dieu se présente. Où Dieu se présente comme « Je suis celui qui suis ». Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas définir Dieu comme nous. Il est hors du temps. Il est l'éternel. L'éternel, ça ne veut pas dire qu'il dure toujours, mais qu'il est hors du temps. Il n'est pas concerné par le temps. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, Jésus se présente comme étant celui qui est, qui était et qui vient. D'accord ? Il est toujours, toujours présent. Il était déjà dans le passé, il est déjà dans le futur et il est maintenant. À d'autres endroits de la Bible, Dieu se présente comme Adonai Raphé, Exode 15, 26. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, et il te présente, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, un autre aspect du nom de Dieu. Dans Juges 6, quand Dieu communique avec Gédéon, il se présente en disant qu'il est Adonai Shalom. Parce que Gédéon était dans une période de confusion et de guerre. Et à ce moment-là, Dieu se présente comme étant le libérateur et celui qui apporte la paix. Donc, de nouveau, une révélation. Dans 1 Roi 17, dont on parlera peut-être encore tout à l'heure, Élie, qui était face à tous les faux prophètes de Baal, se présentait toujours en disant « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant ». Et en disant ça, « L'Éternel est vivant », c'était El Haï. C'est pas Haï, parce que El Haï, ça ne veut pas, ça donne un truc bizarre en français, mais El Haï, ça veut dire celui qui est vivant. Donc Dieu est vivant, c'est pas un fondateur de religion qui n'existe plus maintenant. Il est vivant. Donc avec tout ça, on voit des révélations du nom de Dieu. Et ça commence déjà un petit peu à se dessiner devant nos yeux qu'il y a quelque chose qui est différent dans le nom de Dieu, de tous les autres noms ou divinités ou idoles qui peuvent exister. Et c'est ça qui est important. Romains 10, 13, nous avons dans le Nouveau Testament, à un endroit, ce passage qui dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et ça, on a besoin de le réaliser. Que quand on invoque le nom du Seigneur, il se passe quelque chose. C'est pas juste comme ça qu'on dit des paroles en l'air. Celui qui invoque, invoquer, ça veut dire appeler. Donc, quand on l'appelle, il vient à notre secours. C'est pour ça qu'on ne prend pas le nom de l'Éternel en vain, parce que ça veut vraiment dire quelque chose pour nous. C'est pas comme le génie de la lampe. On frotte sur la lampe, un génie apparaît, coucou, ou une boîte qui s'ouvre et il y a un petit diablotin qui sort. C'est justement ça que nous devons réaliser, qu'avec Dieu, c'est différent. Différent. Sanctifier quelque chose, ça veut dire le mettre à part, ne pas le considérer comme le reste, que le nom de Dieu soit sanctifié. Donc on ne joue pas, on ne se moque pas de Dieu non plus. Galates 6, 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Qui pourrait se moquer de Dieu? Tout à l'heure, on avait vu afficher Exode, quand il est dit sur le commandement de ne pas tromper Dieu, on ne peut pas tromper. Ce n'est pas possible, il sait tout. Des fois, on dit à la légère, on s'en moque de ça. on ne peut pas non plus dire Dieu, c'est pas important dans ma vie. Si, tôt ou tard, ça sera important parce que chacun va un jour être placé devant son Créateur. Par contre, la Bible dit quelque chose concernant les moqueurs, justement dans le psaume 1, et dit « Ce que nous ne devons pas faire, c'est nous asseoir en compagnie des moqueurs. » Parce que la Bible dit aussi que on va adopter des attitudes et des pensées des gens avec lesquels on est. Et dans le psaume 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Vous voyez, souligné, « ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Dans la loi de l'Éternel. Des fois, on a l'impression de « Oh, les 10 commandements, c'est pénible, c'est vieux, c'est une espèce de carcan. » Mais nous avons dit que nous voulons découvrir les 10 commandements comme des lois pour vivre. Plus on va réaliser que ces 10 commandements sont des lois éternelles données par Dieu pour nous aider à vivre, plus on va réaliser, on peut trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. La méditer jour et nuit. Alors celui qui fait ça, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Beaucoup de gens veulent réussir, mais vraiment complètement en dehors de Dieu. Ça ne peut être qu'une réussite passagère et une réussite relative dans un domaine. Par exemple, on peut faire beaucoup d'argent, hein, et je ne vais pas longtemps m'étaler là-dessus, mais il y a des gens qui font beaucoup d'argent dans le trafic de drogue ou le trafic d'armes ou d'autres choses. Mais c'est pour un temps et ça détruit d'autres vies et à un moment donné, eux-mêmes se retrouvent en prison ou morts ou en tout cas condamnés. Donc, on ne se moque pas de Dieu, c'est important qu'on le réalise. Et quand on l'appelle, quand on l'invoque, on a conscience qu'on lui parle et qu'on veut communiquer avec lui. Et j'aimerais vous donner une illustration. Dans 1 Samuel 3, il y a cette histoire où le jeune Samuel est dans le temple. Je vais simplement vous rappeler cette histoire du jeune enfant qui était dans le temple. Et dans la nuit, il nous est dit que Dieu a commencé à lui parler. Au verset 4, l'Éternel appela Samuel. Et il répondit, donc le jeune garçon répond, « Me voici !» Et il court vers Élie le sacrificateur, parce qu'il pensait que c'était son tuteur, le sacrificateur, qui était en train de l'appeler au milieu de la nuit pour un service, parce qu'il avait besoin de lui ou quelque chose. Donc, il est allé, et Élie lui répond, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Il alla se coucher. Une deuxième fois, l'Éternel apparaît et Samuel se lève, va vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit « Je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Il nous est dit « Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. » L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva et alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Elle dit à Samuel, « Va, couche-toi. Si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta. Il appela Samuel comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors peut-être ça vous a rappelé cette histoire, mais moi je voudrais simplement la renverser, si vous me permettez. Si nous, on se met maintenant à cette place et on est en train d'appeler Dieu, on dit « Seigneur, Dieu, à tort, à travers », on dit des versets, blablabla, et on n'y pense pas. Et Dieu viendrait, et puis dit « Non, non, je ne t'ai pas appelé, retourne. » Vous voyez ce que je veux dire? On ne prendra pas le nom de l'Éternel, son Dieu, en vain. Parce qu'on comprend que quand on l'invoque, quand on l'appelle, il vient réellement. Donc, on ne joue pas à ça, on ne se moque pas de lui. On ne dit pas, je t'ai invoqué, ah ben non, on pense à autre chose. Ou... Non, c'est quelque chose qui est réel. Dans 1 Roi 18, quand Élie était face au prophète de Baal, lui, il s'est moqué. Parce qu'il connaissait qui était son Dieu. Et il savait qu'en face, il n'y avait qu'une idole, qui n'avait pas une réalité, qui n'était pas un vrai Dieu. Alors il s'est moqué, il a dit « Chacun va invoquer Dieu et on verra qui va répondre, soit l'Éternel, soit c'est Baal. » Et comme de l'autre côté, il n'y avait pas de réponse, Baal ne se manifestait pas, alors le prophète Élie a eu une attitude extraordinaire. Il a osé, il a fait de l'humour dans la Bible. Il a dit, mais criez plus fort. Peut-être il dort, ou peut-être il est en voyage, peut-être qu'il a autre chose à faire. C'était quand même assez osé, entre guillemets, d'avoir cette attitude. Il était quand même seul et en face, il y avait 450 prophètes de Baal. Et donc, il était dans un environnement extrêmement négatif, il y avait aussi de la menace. Et donc, il a osé parce qu'il connaissait son Dieu. Lui, il savait que lorsqu'il l'appelle, Dieu répond. Et ça, c'est fort. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est... Le premier, c'était donc le nom, c'est la personne. De comprendre que le nom de Dieu est saint. Il est mis à part, il est différent parce qu'il a la personne de Dieu. Et donc, mon deuxième point, c'est... Dans un monde où on perd les valeurs, quelle est la place d'un pseudo? On utilise beaucoup de pseudos actuellement. Donc, qu'est-ce que c'est un pseudo? C'est une identité qu'on prend, par exemple dans le monde informatique, pour se donner un nom, pour accéder à quelque chose. Ça peut être communication, ça peut être des jeux, ça peut être toutes sortes de choses. Mais quel est le principe? Le principe, c'est que on n'utilise pas son vrai nom, parce qu'on joue un rôle. C'est pas forcément négatif. Un acteur joue un rôle. On peut dire, c'est pas vraiment toi. Ben oui, parce que je suis en train de faire une pièce de théâtre ou un film, donc je prends le personnage. Je me revêt de ce personnage. D'ailleurs, il est intéressant de voir que dans le monde antique, les acteurs qui avaient les masques avec les grandes bouches, ça leur servait de porte-voix. Et de cette façon, sans avoir de sonorisation, de micro, de haut-parleurs, etc., les spectateurs qui étaient en haut des gradins pouvaient aussi entendre la voix de l'acteur. Et l'acteur, en grec, il se portait le nom de Hippocrates, qui nous a donné hypocrite, ceux qui jouent un rôle, ce n'est pas leur vraie identité. Et donc, dans ce sens, il faut faire attention, dans un monde qui perd ses valeurs, que nous aussi, le nom de Dieu va être diminué à nos yeux. Donc, jouer un rôle, avoir un personnage, ça peut être valable dans certains domaines bien précis. Mais il faut aussi être conscient qu'on est dans un monde où beaucoup cherchent à tromper. On a dit, on ne peut pas tromper Dieu, mais on peut essayer de tromper d'autres personnes. Donc, il y a des gens qui cherchent à se faire passer pour d'autres. On peut, par exemple, pirater le compte informatique de quelqu'un, peut créer une fausse identité pour mettre en place une arnaque. Donc il y a au travers de tout cela une usurpation du nom. Utiliser un nom à tort. Et dans ce contexte, j'aimerais juste qu'on réfléchisse à ça par rapport à l'utilisation du nom de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans notre poche et dire « voilà, Dieu m'a dit que, Dieu va faire ci, Dieu va faire ça ». Il n'est pas à notre service au sens où on l'entend. C'est nous qui sommes là pour le servir. Et il se trouve que lorsque nous le servons, lui aussi nous bénit. Mais il n'est certainement pas le génie de la lampe, mais beaucoup de gens pensent à tort qu'on peut manipuler Dieu. C'est dans le domaine occulte aussi, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent contrôler les démons pour qu'ils les aident à un certain nombre de choses. Mais un faux prophète, c'est quelqu'un qui parle faussement de la part de Dieu. Donc, il y a aussi beaucoup d'abus de langage. Dans Matthieu 7, 21, par exemple, le Seigneur Jésus a dit quelque chose qui me semble spécialement important dans notre contexte qu'on voit aujourd'hui. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, l'importance de ne pas simplement utiliser un nom, mais aussi qu'il y ait une réalité. On sait aussi qu'il y a des gens qui sont venus auprès de Jésus avec de la flatterie. « Maître, nous savons que ceci, cela. » Donc, ils venaient et ils l'ont appelé maître, mais en réalité, ils ne l'ont pas reconnu comme maître. C'était juste une façon d'essayer de le tromper parce qu'il n'avait pas encore réalisé sa vraie nature. Et sa vraie nature, c'est d'être la vérité. Et donc, on ne pouvait pas le tromper, lui. Parce que dans les situations où il en avait besoin, il nous a dit que le Saint-Esprit lui révélait ce qui était dans les cœurs. Mais nous sommes donc dans un monde, on a dit, qui perd ses valeurs, où il y a de la tromperie, et c'est un monde qui est dominé par le mensonge. Alors, que vaut la parole? Si vous dites, je donne ma parole, qu'est-ce qu'on va vous répondre? On va dire ça, tout le monde peut le faire. Hein. Tout le monde peut déclarer. Nous sommes actuellement dans une situation où la parole de quelqu'un ne vaut pas grand-chose, pas par rapport à la personne même, mais par rapport à la façon dont dans notre monde on gère les choses. Nous sommes dans un monde de droit, j'ai bien dit droit et pas forcément justice, où ce qui compte c'est le contrat, tel qu'il a été rédigé. Et là on peut alors faire une extension en justice pour faire respecter les droits, mais fondamentalement la parole elle est dévaluée. Donc notre parole est dévaluée, tu dis ça mais en fait tu penses autre chose. On va vous dire, tu dis ça mais t'as une idée derrière la tête. C'est un monde où on est dans cette situation. Pourquoi? Parce que Jésus nous l'explique dans Jean 8, 44, que le diable est présent. Jean 8, 44, voilà ce qu'il dit aux gens qui l'écoutaient. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Donc voilà la situation. Le diable est menteur et père du mensonge, il influence le monde, et c'est pourquoi le royaume de Dieu, qui est un royaume différent, il y a d'autres règles qui fonctionnent. Et c'est pourquoi il est difficile, même pour des chrétiens, en ayant quitté le royaume du diable pour être dans le royaume de Dieu, des fois on parle encore, et ça ne devrait pas être, le langage du monde où le malin domine. C'est ce que dit aussi 1 Jean 5, 19. Le monde est dominé par le malin. C'est pourquoi c'est important pour nous, par rapport à cette histoire de pseudo, de l'usurpation du nom, qu'on développe notre identité en Christ. C'est là qu'elle est notre identité. Alors beaucoup de gens, des fois, se posent la question « Qui suis-je ?» On a des moments dans notre existence, on se pose plein de questions, et on passe par les différentes crises que les gens cherchent. Ah, ça maintenant, c'est la crise de l'adolescence, ensuite c'est la crise de ceci, cela, ou la quarantaine, ou d'autres choses. Mais fondamentalement, on a tous besoin de savoir qui on est. Qui on est, et notre identité, elle n'est jamais mieux que de vivre notre filiation de « en Christ, nous sommes enfants de Dieu adoptés, et je suis le fils de quelqu'un ». C'est important, même pour des gens qui ne sont pas chrétiens. Des fois, des gens qui croient à la réincarnation, ils imaginent que « Ah, j'ai peut-être dans mes ancêtres, ou quelque part, il y a eu quelqu'un d'influent ou de haut placé, et je suis la réincarnation de cela, je suis la descendance de royauté. » Mais qu'est-ce qui est important? Pour les gens, ce qui est important, c'est d'être le fils, la fille d'une personne d'honneur, d'une bonne personne, de pouvoir regarder sa propre vie en se disant « Voilà, je suis quelqu'un et je sais d'où je viens. » Mais même si des choses n'ont pas été dans la vie comme il fallait, nous avons maintenant une nouvelle filiation qui nous est décrite dans la parole de Dieu et celle-ci se trouve dans Éphésiens au chapitre 3 et au verset 14. Et il nous est dit « À cause de tout cela, de tout ce que l'apôtre Paul a enseigné, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Donc voilà, on a maintenant une famille, une filiation, où on reconnaît maintenant que tout vient de Dieu et tire son nom. Même le nom, la personne et tout, nous vient de Dieu. Pourquoi c'est tellement important? C'est parce que à ce moment-là, on trouve notre place dans l'univers, notre place dans le royaume de Dieu et dans ce que Dieu veut faire. Et le troisième point, et dernier, c'est que la puissance est dans le nom. Nous pouvons avoir foi dans le nom de Dieu et dans sa puissance. C'est pour ça aussi que c'est important de comprendre qu'on ne prend pas le nom de Dieu en vain. Quand on l'invoque, on attend quelque chose de sa part. On attend à ce que la puissance de Dieu se manifeste, à ce qu'il soit vraiment là pour nous. Et dans les premiers chrétiens l'ont très bien compris dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, les disciples expliquent certains miracles qui se sont produits par leur action. Donc, acte 4, verset 10, il dit « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme, donc l'homme qui était paralysé avant et qui a été guéri, c'est par lui que cet homme est en pleine santé devant vous. » Donc, une action de la part du nom de Jésus, une action de la part du nom de Dieu. Puisqu'on va voir le nom de Dieu avec toutes les appellations qu'on a vues, et le nom de Jésus, c'est une même réalité. C'est celle du Dieu infini. Donc, utiliser le nom de Dieu en vain affaiblit notre foi. On ne peut pas le banaliser. Et plus on l'utilise à tort et à travers, après, c'est une source de confusion. On se dit, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu ici? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parce qu'au moment où on dit certaines phrases, on utilise le nom de Dieu, on n'y met pas en même temps la foi. On n'a pas ce respect pour le nom de Dieu. On n'a pas cette attente qu'il va vraiment venir agir. Et on dit à la légère, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, alors qu'on ne devrait des fois pas le dire. On devrait dire, je pense que Dieu m'a dit. Parce que ça nous met en même temps, ça ne nous met pas dans une position où on n'a pas d'assurance, ça nous met dans une position d'humilité. Je pense que c'est ce que Dieu m'a dit, et des fois c'est ce que je crois, et ce n'est pas la réalité. Il faut tout simplement penser qu'on peut se tromper. Nous avons vu aussi dans l'explication par rapport au nom de Dieu en vain, les jurons, les blasphèmes et autres choses. Donc c'est important aussi qu'on en parle. J'aime bien raconter cette petite anecdote historique. Quand le roi Henri IV avait un conseiller spirituel, il avait l'habitude de dire un juron en gascon, c'était « je renie Dieu » et avec l'accent gascon, ça donnait « j'arnie Dieu ». Et donc, il avait son conseiller spirituel qui s'appelait Coton et disait « Majesté, ne dites pas ça, ne jurez pas, ne blasphémez pas ». Et donc, elle dit « dites plutôt « j'arnie Coton ». Alors, ça donnait « j'arnie Coton », une expression que beaucoup connaissent et qu'on ne sait plus du tout pourquoi on dit des choses comme ça. Mais il a dit « préfère que vous disiez coton à la place de Dieu. » Et donc voilà. En alsacien, on a aussi un fameux juron, c'est Gott für Tommy. Et donc, c'est Dieu danne-moi, qui est complètement ridicule. Parce que premièrement, si Dieu existe, c'est de la folie de demander à Dieu la damnation. Et si on ne croit pas qu'il existe et qu'il n'a pas aucun impact dans notre vie, bah, on ne va pas dire n'importe quoi non plus. Donc, de toute façon, on a tout faux. Mais c'est simplement parce que les gens, au lieu de réfléchir, ils ouvrent leur bouche et ils permettent au diable d'utiliser leur bouche contre eux-mêmes. Certains, on dit, certains creusent leur tombe avec leur propre bouche. Et donc, c'est quand même des choses où il nous est dit dans la parole de Dieu que Dieu ne considérera pas, va pas considérer comme impuni celui qui va utiliser son nom en vain. Donc, au travers des différents titres, on a vu des révélations des noms de Dieu, mais aussi des titres. Je crois que c'est important aussi qu'on voit quel nom de Dieu utiliser dans quelles circonstances. Ça peut être Dieu, ça peut être Père, ça peut être Papa, ça peut être Seigneur, ça peut être Maître, mais on ne le fait pas n'importe comment et n'importe où. Ça, c'est aussi une façon d'honorer Dieu. D'accord? Dieu, ce n'est pas mon pote, par exemple. D'accord? Vous le verrez difficilement, lui taper sur l'épaule, salut, comment ça va? C'est parce qu'on n'aurait pas compris qu'il est saint, qu'il est tout autre. On peut se sentir proche avec quelqu'un sans commencer à manquer de respect. Si on manque de respect, si on n'a plus l'honneur, on perd tout auprès de Dieu. On n'obtiendra rien. Et quand Marie, une des sœurs de Lazare, qui avait une proximité avec Jésus et qui était une proche amie avec sa sœur et Lazare, l'appelle Rabouni, ça veut dire cher maître, un mot de tendresse. C'était, on peut dire, entre eux. Voyez? Et donc, ça veut pas dire que nous, on doit utiliser le nom de Dieu à tort et à travers. Ça dépend dans quelles circonstances. Si vous faites ce que certains appellent une prière de chambre, vous allez peut-être prier autrement que si vous priez en public. Vous allez peut-être invoquer Dieu autrement que si vous êtes comme Élie face à 450 prophètes de Baal. Donc, veillez à utiliser les titres et les noms de Dieu comme il faut. Et la conclusion, c'est de se rappeler, encore une fois, il s'est présenté comme celui qui suit. Il s'appelle Je suis. D'accord? Et le dernier point que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est Jean 17:6. Jésus a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et ce nom qu'il nous a fait connaître, eh bien, c'est le nom de Père. Il faut encore une fois nous rappeler de ça. Jésus avait révélé un nom. Il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde, ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Quand Jésus a révélé un nom, c'est intéressant de savoir lequel il a révélé. Donc, vous savez qu'il y a une secte qui insiste beaucoup sur l'utilisation du nom de Jéhovah. Donc, si ça avait été tellement important, on aurait dit, maintenant, dans Jean 17, on va enfin savoir quel est ce nom. Et Jésus aurait dit, je leur ai révélé ton nom. C'est Jéhovah. Mais c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Il a dit, voilà, que c'était le Père. Il a révélé le Père. Il a dit, vous pouvez avoir une relation avec Dieu comme avec un Père. Évidemment, tous ceux qui ont eu des problèmes avec leur Père naturel, c'est toujours un peu compliqué. On a besoin de nouveau comprendre quel peut être le Père céleste, aimant, qui nous accueille et qui nous accepte comme on est. Donc, tous ceux qui ont eu des problèmes avec leur Père, ils ont besoin là de la révélation du Saint-Esprit. Mais Jésus avait cette proximité avec le Père. Et même, il l'appelait Abba, cher papa. Et nous avons un Père céleste. Il n'est pas distant, mais il est proche. Il est accessible. Et on doit rechercher une relation intime avec Dieu, comme avec un Père. Même si on n'a jamais connu ça sur terre, mais c'est possible de le connaître maintenant dans notre relation avec Dieu. Donc la Bible nous révèle la notion du Père. Nous avons besoin de pères spirituels, ou de pères qui sont là pour la nation, de pères à l'image de Dieu le Père. Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous et que nous-mêmes devenions aussi des parents spirituels. Nous avons en permanence un accès auprès du Père par Jésus. Et on a reçu ce nom de Jésus. Il nous est dit qu'il nous donne accès, libre accès au sanctuaire. Et ce nom est tellement puissant qu'il nous a permis de devenir enfants de Dieu. Et c'est ma conclusion dans Jean 1:12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et on va le lire ici. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand il est dit « elle », c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ainsi, on a une vraie relation avec Dieu, notre Père. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.